Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis tout particulièrement d'être là ce matin, même si c'est des circonstances un peu particulières. Jeudi, comme tous les jeudis matins, le groupe jardinage se réunit pour prendre soin de nos extérieurs. Et Eric Steiner, membre de ce groupe jardin et aussi du groupe employeur, en bon membre du groupe employeur, il me pose la question: monsieur le pasteur Vincenzo, ça va, t'as pas trop, en plus avec ces services qui se rajoutent? Et là, le sourire aux lèvres, je fanfaronne: le prochain mois, je n'ai pas de prédication. Je suis tranquille pour un mois, je peux faire tout le reste qui me reste à faire, mais j'ai pas de prédication. Nous étions jeudi matin, jeudi à midi. Stéphanie m'appelle. Oui, Vincenzo, est-ce que tu as lu tes mails? Non, je suis en train de préparer le service de demain. Alors, notre prédicateur se désiste pour dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, quand on vient vers le pasteur en lui disant « qu'est-ce qu'on fait ?» c'est « est-ce que tu aurais pas une petite prédication sous la manche ?» Et donc, j'ai décidé de prendre une prédication tirée de la retraite pastorale que j'ai eue avec la Fré. Parce que vous vous imaginez, depuis jeudi midi, étant donné que vendredi c'est mon jour de garde, où je garde Grégoire, mais qu'en plus j'avais un service ce vendredi, il me restait peu de jours pour préparer une prédication. Et donc je me suis largement inspiré de notes que j'ai prises, mais j'ai quand même un peu modifié. Ce matin je me suis réveillé et j'ai quand même modifié une ou deux choses. Et donc nous lisons le livre de Daniel, le premier chapitre. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Asphénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens: Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel: « Je redoute mon seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Aujourd'hui, ce dimanche, nous sommes un dimanche un peu particulier. Ce dimanche débute les 2 semaines de prière pour les chrétiens persécutés. Aujourd'hui, nous sommes dimanche où nous pensons, où nous prions pour les chrétiens persécutés. Et je veux le dire, nous sommes en communion avec eux. Et j'ai choisi de ce texte de Daniel parce qu'il parle, de comment tenir ferme, comment vivre sa foi dans un contexte hostile. Comment vivre sa foi alors que je suis exilé dans une terre lointaine, dans une ville étrangère, entouré de gens que je ne connais pas. Et c'est vrai que si on s'arrête sur les persécutions, toutes les personnes à qui j'ai parlé récemment, toutes celles et ceux qui œuvrent en faveur des chrétiens persécutés ont le même refrain. Ces dernières années, les persécutions ont augmenté. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Vous aurez quand même constaté les légères tensions géopolitiques qui se sont développées ces dernières années. Le christianisme, en particulier le christianisme évangélique, malheureusement, dans cette spirale de tension, est considéré comme un soft power occidental. C'est-à-dire qu'à l'étranger, les gens estiment qu'être chrétien, c'est être pro-Occident. Et donc, il y a plein de religions, plein de communautés religieuses à travers le monde qui ont augmenté les persécutions face au christianisme, en particulier aussi pour prendre place dans cet échiquier géopolitique. Et donc, ça fait des années qu'il n'y a pas eu autant de persécutions, des années que des chrétiens n'ont pas été pourchassés, emprisonnés, tués pour leur foi. Et je crois que c'est absolument essentiel de les garder dans nos prières, de les garder dans nos pensées et de réaliser et comprendre la chance qu'on a de pouvoir se réunir pour vivre un culte. Et donc, c'est à eux que je souhaite adresser cette prédication. Et comme, par les soins d'Internet, nos messages sont diffusés sur Internet, c'est par Internet que je veux m'adresser à ces chrétiens persécutés. Et en leur disant que si c'est possible dans leur pays, il faut utiliser un VPN. Voilà. Ce premier chapitre du livre de Daniel, le royaume de Juda tombe. Alors, on n'est pas très sûr sur la date, à quel moment, est-ce que c'est en 605, en 597 ou en 586 qu'il y a cette déportation. Mais le royaume de Juda, donc celui du sud, vous voyez, il tombe aux mains des Babyloniens et, suite à leur victoire, à sa victoire, le roi ordonne qu'on lui amène des jeunes garçons pour enrichir son palais. Et on voit déjà là cette guerre et cette relation aux enfants qui sont enlevés, qui sont séparés de leur famille, séparés de leurs proches, pour être pour subir un lavage de cerveau. En somme, on déracinait ces jeunes gens, on leur donnait un nouveau nom, on leur enseignait la culture babylonienne, en espérant que soit ils puissent servir, soit ils puissent être renvoyés un jour en Juda, mais à ce moment-là, en exposant la culture babylonienne, en rayonnant de cette culture pour changer les gens. De plus, comme c'était les enfants des responsables, des leaders, comme on dit aujourd'hui, eh bien, généralement, les responsables ne sont pas très enclins à se rebeller, étant donné que leurs fils sont entre les mains de l'ennemi. Et alors qu'ils sont emmenés à Babylone, ils arrivent dans un monde nouveau, un monde différent, une culture différente, un monde hostile. Et donc, mon message sera comment tenir ferme dans un contexte hostile. Comment est-ce que je garde la foi lorsque la société qui m'entoure y est hostile? Et je me permets deux points. On voit généralement cette hostilité, en particulier dans la Bible, prend deux formes. Tout d'abord, elle prend la forme des persécutions. Et là, c'est l'interdiction de conversion, c'est l'interdiction d'accès à certains postes à responsabilité lorsque je suis chrétien, l'interdiction d'études, je ne peux pas étudier parce que je suis chrétien, l'interdiction de propriété, je ne peux pas acheter parce que je suis chrétien. Vous voyez, il y a... Et ça, c'est ce qu'on appelle la persécution. Et deuxièmement, il y a ce qu'on pourrait appeler la séduction. Lorsque la société essaye de me séduire, lorsqu'elle essaye d'être attrayante, alléchante. Et dans ces deux situations, tout l'enjeu, et vous le verrez, est de se distinguer, de prendre un chemin différent. Tout d'abord, une relation différente. Tout au long du récit de Daniel, Daniel, Anania, Michaël et Azaria restent en contact. Ils se parlent, ils se connaissent, ils se rencontrent. Et dans un contexte hostile, les relations sont essentielles. Elles sont essentielles. On le voit en particulier pour garder son prénom. Le changement de prénom n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de fort. Lorsque on regarde au lieu dans notre société où on change de prénom, où on ne décline pas sa vraie identité, il y a par exemple, quand on est à la rue, les SDF, je parlais avec une pasteur de rue, elle me disait c'est très fort, ils ne s'appellent pas par leur vrai prénom. Ils changent tous de prénom lorsqu'ils vont à la rue. Une autre catégorie de personnes qui changent, qui ne donnent pas leur vrai prénom, c'est dans la prostitution. Par exemple, une prostituée, j'ai lu, ne donne jamais son prénom. Le prénom a quelque chose qui touche à l'identité du qui je suis. Le fait de ne pas donner son prénom, de changer de prénom, c'est comme si, au fond, je voulais préserver mon identité. Il y a une chose que je te donne pas, une chose que je conserve, une chose que je garde, c'est mon prénom. On a d'autres endroits, les métiers à risque, et je dirais en particulier dans certaines unités spéciales, dans les forces armées, dans les groupes, ils s'appellent par des surnoms. Ils n'utilisent pas leur vrai prénom. Alors, j'ai pas fait la recherche, mais c'est des métiers où très facilement, où malheureusement, ça fait partie du travail d'aller tuer. C'est des gens qui vont au contact, et le but, c'est d'éliminer, de neutraliser l'ennemi. Et j'ai l'impression que le fait d'employer des surnoms, ça permet de créer une distance entre cette action de tuer un ennemi et le « qui je suis à la maison ». Et celui qui neutralise la cible, c'est pas Laurent, mais c'est Oiseau Jaune, je sais pas, un surnom. Vous savez, souvent, ils sont pas très intelligents. En restant en contact les uns avec les autres, Daniel, Anania, Azaria et Michaël continuent à s'appeler par leur prénom. Ils continuent à s'appeler par leur prénom et ils savent les uns les autres qui ils sont. Et généralement, on sous-estime le rôle de l'autre dans la définition de mon identité. De nos jours, la mode, c'est ce qu'on appelle l'expressive individualisme, le fait que je suis le seul à pouvoir, le seul légitime qui peut dire qui je suis. Les autres, la communauté, le groupe jouent un rôle primordial dans cette identité. Garder le lien est essentiel pour conserver mon identité dans l'hostilité. Et là, je me permets une petite parenthèse. C'est Joseph est d'autant plus admirable qu'il était seul. Alors, je ne vais pas vous faire, mais il y a vraiment un lien entre Daniel et Joseph qui part aussi en exil à l'étranger. Et Joseph, lui, est seul et pourtant, avec sa force et son courage et sa grandeur d'âme, il reste fidèle. Donc, des relations différentes, des relations empreintes d'amour, des relations avec qui je m'entends bien. Deuxièmement, une éthique différente. Daniel décide de ne pas se plier au régime alimentaire. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Daniel refuse de manger ce que donne le roi et de boire son vin. Et ici, ce refus, c'est pas juste de l'alimentation. Le refus est plus large. Et généralement, moi, j'aime bien discuter gastronomie avec les gens d'une culture différente. Parce que la gastronomie, l'art culinaire, a quelque chose de la culture. si je vis dans une culture où on mange beaucoup de maïs, normalement, je suis une société où plein de gens vont cultiver du maïs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut bien... Alors, c'est plus tellement vrai de nos jours, vu qu'on exporte tout, mais... La nourriture a un impact sur la culture. Et lorsque Daniel refuse de manger et de boire, il refuse pas juste la boisson et les aliments, mais il refuse d'entrer dans un mode de vie. Et somme toute, un mode de vie qui devait être très confortable, un mode de vie de palais, à manger les plats du roi et à boire ses vins. Ça devait être plus que confortable, et pourtant, Daniel refuse. Il marque une différence. Et cette différence, c'est une éthique différente. Alors c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi il mange... C'était sûrement moins confortable étant donné qu'il mangeait que des légumes et il mangeait pas de viande. C'est un passage que les végétariens aiment bien citer. Les chrétiens aussi, dans le Nouveau Testament, au tout début, dans le livre des Actes, se distinguent par les aliments. Cette vision de Pierre et cette phrase qui dit « tue et mange », où Dieu dit il n'y a plus d'aliments purs ou impurs, ça marque la différence. Et donc, de cette décision ferme que prend Daniel de ne pas se souiller, il y a une pratique différente qui s'installe. L'éthique de Daniel et ses amis est vécue, elle n'est pas imposée. Daniel ne demande pas que tous les autres serviteurs du roi ne mangent que des légumes et de l'eau. Non. Mais Daniel s'abstient et prend cette décision. Troisièmement, et je trouve que c'est intéressant de le souligner, une qualité différente. Daniel et ses amis n'ont pas peur d'étudier la littérature babylonienne, d'apprendre et de s'instruire. Et non seulement ils le font, non seulement ils étudient cette culture différente, mais ils le font avec excellence. Au verset 20, il nous dit « Sur tous les sujets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels ils les interrogeaient, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans son royaume. » Et pour reprendre Joseph et sa vie, lui aussi, son exil était marqué par l'excellence. Et cette excellence, c'est faire de mon mieux là où je suis. Exceller avec ce que j'ai, avec ce que le Seigneur m'a donné, avec les talents qui sont en ma possession. Et le domaine par excellence où nous sommes appelés à exceller, c'est la sagesse. Et c'est intéressant que dans l'Ancien Testament, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Lorsque je crains l'Éternel, je ne crains pas d'apprendre. Lorsque je crains l'Éternel, je n'ai pas peur de m'instruire. Et donc j'arrive gentiment à la conclusion de ma prédication. Et j'aimerais vous répéter ces 3 points qui nous permettent de tenir ferme dans un monde hostile. Tout d'abord, des relations différentes. Nous sommes appelés à nous distinguer dans nos relations et à trouver des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons entretenir notre foi. Et là, je peux que vous conseiller d'entrer dans des groupes de maison. Je peux que vous conseiller de vous réunir en dehors du culte et de prier les uns pour les autres, de lire la Bible ensemble, de louer, de célébrer. Vivez ces relations qui nous permettent de tenir ferme face à l'hostilité. Deuxièmement, une éthique différente. Et là, il y a tellement de slogans dans notre société, il y a tellement de slogans qui sont autour de nous, ça vaut la peine de comprendre que nous avons une éthique différente. Alors, je prenais le slogan là, la semaine dernière, « Ne juge pas ». Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas juger ? Il y a cette éthique « Tu peux te définir toi-même ». Cette éthique « Tu es autosuffisant pour te définir ». Tu es autosuffisant pour survivre. Récemment, juste une petite parenthèse, récemment il y a un article, enfin un reportage qui est passé sur le survivalisme. Je ne sais pas si vous l'avez lu là sur la RTS. Et je trouve intéressant de voir ces familles qui essayent de, surtout sur YouTube, ils font des homestead ou off-grid et ils partent en couple ou en famille pour aller redécouvrir la campagne. Généralement, c'est des citadins qui partent redécouvrir la campagne isolée et c'est assez intéressant de les voir dans leur démarche, mais ils comprennent pas qu'une famille, qu'un couple n'est pas suffisant pour subvenir entièrement à ses besoins, que la communauté, que le village est nécessaire pour vivre. Non, nous sommes empreints d'une éthique différente et je vous encourage à prendre des décisions fermes dans votre vie pour vous distinguer et marquer cette différence. Et troisièmement, une qualité meilleure, n'ayons pas peur d'apprendre, n'ayons pas peur de nous instruire. La connaissance et la science profitent au christianisme. La connaissance, la science, l'intelligence profitent à notre foi. Et là, je vais aussi marquer une petite erreur méthodologique. Je vais ajouter un élément, alors que je suis déjà dans la conclusion. Et vous saurez que c'est absolument criminel de faire quelque chose comme ça. Mais je vais vous lire là au verset 4, il me semble. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Après tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui est juste à ces quatre amis de faire, Dieu gagne la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Et il y a là un mystère, il y a là l'œuvre de Dieu. Nous pouvons compter sur l'action de Dieu. Nous pouvons compter sur son action parce que nous participons à une histoire qui est plus large que la nôtre. Et dans cette histoire, où Dieu est le personnage principal, Dieu agit. Dieu est à nos côtés, Dieu nous conseille, nous conduit, et il fait que les circonstances s'alignent. Et en particulier dans un contexte de persécution, dans un contexte hostile, Dieu est à l'action. Et j'aimerais terminer sur cette espérance et annoncer cette espérance à toutes celles et ceux, et en particulier pour les chrétiens qui vivent la persécution, pour vous dire qu'on a un Dieu qui agit et qui est à vos côtés. Et au-delà de ces relations, de cette éthique et de cette excellence, au-delà de ça, nous avons un Dieu qui est le bon berger et qui veille sur nous, qui nous conduit jour après jour. Comptons sur lui. Amen.